affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, nous allons célébrer la vie, non pas seulement cette période qui, chez chacun d'entre nous, sépare la naissance de la mort, avec ses joies et ses drames, mais la vie elle-même, la vie avec un grand V en quelque sorte, la vie dans sa diversité, la vie dans son essence même. À cette fin, nous aurions peut-être pu convoquer un philosophe, mais nous avons pris un parti pris différent, en décidant d'apporter la question sous l'angle de la science. Nous en avions une occasion en or, car tout récemment, les éditions Plomb ont publié un dictionnaire amoureux de la vie, signé par Nicole Ledouarin, qui a eu l'amabilité d'accepter notre invitation. Madame Ledouarin, bonjour et merci.
Bonjour.
Même si vous êtes déjà venu souvent dans notre studio et si nos auditeurs vous connaissent, je vais me permettre de vous présenter à nouveau quand même. Madame, vous êtes secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences, chercheuse en biologie du développement et en embryologie. Nous sommes donc au cœur du sujet à travers vos recherches et votre carrière. Vous êtes professeur honoraire au Collège de France et vous venez donc de publier un dictionnaire amoureux de la vie, qui est aussi un dictionnaire amoureux de la biologie, je crois, et dans lequel vous faites en quelque sorte le point sur les connaissances accumulées par l'homme sur ce phénomène, malgré tout, toujours fascinant et même mystérieux, qu'est la vie. Mais avant d'évoquer cette aventure qui a été la recherche scientifique et pour laquelle vous développez d'ailleurs un enthousiasme et un amour bien compréhensible, je vous propose peut-être de définir cette chose qu'est la vie, cet objet, parce que finalement on dit toujours la vie, ça semble évident, et en fait non.
Non, ça n'est pas évident, mais c'est quand même assez facile de distinguer ce qui est vivant de ce qui ne l'est pas. Parce que les êtres vivants ont cette propriété qui n'est pas partagée par les matières inertes, c'est qu'ils sont capables d'auto-renouvellement. Que ce soit une bactérie, que ce soit un être plus complexe, il y a dans la vie la possibilité de s'auto-renouveler. Et la vie, en quelque sorte, elle a été, apparemment, elle est apparue à la surface du globe il y a 3 milliards 800 millions d'années, à peu près, et depuis, elle existe. Elle a commencé par des êtres simples, comme les bactéries, unicellulaires, ayant qu'une seule cellule, c'est-à-dire une seule unité de base de la vie, car la cellule, c'est ça, c'est l'unité de base de la vie, qui contient une molécule particulière qui est responsable de cette capacité qu'ont les êtres vivants de s'autoproduire, c'est-à-dire l'acide désoxyribonucléique, ou ADN. Et alors ensuite, les bactéries, elles ont proliféré, elles se sont reproduites, elles se sont diversifiées et ceci a duré plusieurs millions d'années. Mais à un certain moment, il y a eu l'apparition de cellules plus compliquées, plus complexes, dans lesquelles l'ADN ne se trouve pas plongé, immergé au sein même de la matière vivante qu'on appelle le cytoplasme. Enfin, c'est la matière qui constitue la cellule, entourée d'une membrane qui est faite entièrement de lipides. Mais dans les cellules plus compliquées, eh bien, l'ADN, qui est plus abondant que chez les bactéries, est entouré par une membrane identique à la membrane qui entoure le reste de la cellule, sous forme d'un noyau. Il y a un noyau cellulaire. On appelle ces cellules-là des cellules eucaryotes, parce que karyos, ça veut dire noyau en grec. Eucaryotes, elles ont un vrai noyau. Et à partir de là, eh bien, il y a eu apparition d'êtres multicellulaires. Et les êtres multicellulaires, ils se sont compliqués. Et nous sommes, en quelque sorte, un des aboutissements de cette évolution.
Alors, pour bien comprendre, comment cela a-t-il pu se produire ? Parce qu'au départ, si je comprends bien, nous avons des cellules qui sont déjà vivantes parce qu'elles se reproduisent, mais elles se reproduisent donc du coup à l'identique. C'est bien ça ?
Oui, très bien, c'est tout fait ça.
J'ai bien compris votre livre, tant mieux.
Ah.
En revanche, dès lors qu'elles ont un noyau, elles ne se reproduisent plus à l'identique.
Alors, si, parce qu'en même temps que l'apparition du noyau, Et il y a quelque chose qui est apparu, c'est la sexualité. Curieux, hein? À partir du moment où les cellules ont eu un noyau, elles ont eu beaucoup plus d'ADN qu'auparavant. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un exemplaire de la molécule d'ADN qui contient leur patrimoine génétique, elles en ont deux. Alors, elles en ont deux, comment est-ce que les choses se passent? Elles en ont deux parce que, pour créer un autre être vivant, ça n'est pas comme dans une bactérie où on se coupe en deux, on fabrique deux molécules d'ADN à partir d'une, c'est ça l'autoreproduction.
Et les deux ressemblent à la première.
Identiques. Elles sont absolument identiques entre elles et identiques à la première. Eh bien là, il faut être deux pour pouvoir fabriquer un autre être.
Et du coup, on a des combinaisons différentes.
Alors, on a des combinaisons différentes. Alors ça, c'est un petit peu compliqué parce qu'on se demande comment tout ça a pu se faire au cours de l'évolution. Mais la complication, voilà en quoi elle consiste. C'est que le gamète, d'abord les gamètes, au début, les gamètes tels qu'ils sont au jour d'aujourd'hui et depuis très longtemps, ils sont différents. Il y a un gamète mâle, un gamète femelle. Mais leur noyau contient la moitié du patrimoine génétique de l'être qui a produit le gamète. Le patrimoine génétique de cet être, c'était 2 fois N chromosomes, N étant spécifique de l'espèce. Alors, dans le cas où on fabrique un gamète, on fabrique donc un gamète qui a N chromosomes dans chaque sexe, et ces deux gamètes vont fusionner et puis vont donner un œuf à partir duquel va se développer l'embryon. Mais c'est dans la fabrication du gamète qu'il y a des choses amusantes qui se passent. Parce que comme vous comprenez, l'œuf à partir duquel se développe l'organisme va être quelque chose de nouveau puisqu'il va venir d'une mère et d'un père. Mais là, lorsque le gamète est fabriqué, les deux chromosomes qui sont dans la cellule mère des gamètes vont se combiner entre eux, vont faire des échanges de morceaux. Donc, à chaque fois qu'on fait un gamète, on a une recombinaison des caractères qui sont portés par les chromosomes.
C'est-à-dire que même deux cellules initiales se reproduisant plusieurs fois vont, comme pour les êtres humains aujourd'hui, produire une troisième cellule qui sera différente à chaque coup.
Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, avec la reproduction sexuée, partir d'un même couple. Sauf dans le cas des jumeaux, où il s'agit d'un œuf qui se coupe en deux, mais à partir d'un même couple qui se forme à partir d'un gamète mâle et d'un gamète femelle, on ne peut pas avoir deux enfants identiques.
Ça. A plus B n'égale pas toujours AB.
N'égale jamais AB. Égale C.
Égale C, ou D, ou E.
Ah ben oui, bien sûr.
Alors, l'autre chose assez surprenante, quand on définit la vie, finalement, c'est vrai qu'initialement, spontanément, on pense à la vie humaine, ensuite on va l'étendre en mammifères, éventuellement, si on est un peu éveillé à ce moment-là, aux plantes, voire aux microbes. Mais quelle est la frontière, finalement? Comment expliquer cette frontière entre animé, inanimé?
La frontière, eh bien,
elle est mystérieuse aussi, cette frontière.
Oui, la frontière, il faut partir aux origines. Aux origines, il y avait sur le globe terrestre des composés qui sont des composés organiques. On a eu du mal à croire à ça. On pensait que les composés organiques qui contiennent de l'azote et du carbone ne pouvaient être produits que par les êtres humains. Alors ça posait le problème de la façon dont la façon dont les êtres vivants étaient apparus. Mais vous savez que maintenant les expéditions interplanétaires montrent que il y a dans la poussière, par exemple, de certaines exoplanètes, il y a des composés organiques qui sont beaucoup plus compliqués qu'on ne croyait, comme par exemple jusqu'à des acides aminés, des composés carbonés qui sont présents dans les êtres vivants et qui, par conséquent, probablement, ont été à l'origine de la formation de ces acides nucléiques qui sont les molécules qui sont tout à fait essentielles puisqu'elles ont ce pouvoir d'autoreproduction. Au départ, ça n'était pas nous, on le pense, l'acide désoxyribonucléique, c'est-à-dire l'ADN, c'est-à-dire le constituant qui porte nos caractères héréditaires. Mais un autre acide nucléique qui, dont le sucre est un peu différent, au lieu d'être du désoxyribose, c'est du ribose, et l'acide nucléique est alors à ce moment-là l'ARN. L'ARN est intéressant parce qu'en plus d'avoir cette capacité d'autoproduction, il a aussi des capacités dites enzymatiques. C'est-à-dire que lorsque l'ARN a été capable de enzymatiquement permettre la production d'ADN. Et l'ADN, par la suite, a pu, grâce à ses capacités enzymatiques, se reproduire.
Mais au départ, nous sommes bien d'accord, nous avons de la matière inerte qui devient de la matière vivante. À partir du moment où elle s'auto-reproduit. C'est
alors,
ça la frontière.
Oui, la frontière, c'est ça. C'est ce qu'on pense. Comment est-ce qu'à partir de cette molécule, on a pu fabriquer une cellule ? Là, c'est compliqué. Parce qu'il a fallu que cette molécule, qui est à l'origine des constituants essentiels de notre organisme, c'est-à-dire les protéines, il a fallu que les protéines puissent être fabriquées à partir des informations contenues dans l'acide désoxyribonucléique, c'est-à-dire dans l'ADN. Alors ça, c'est une question qui n'est pas résolue, mais qui est posée.
Poser en de nouveaux termes.
Pardon ?
Poser en de nouveaux termes.
Oui, poser en des termes qui font espérer qu'une meilleure compréhension de ce système pourra voir le jour.
C'est un des aspects fascinants dans votre ouvrage, c'est qu'on comprend qu'on touche la vie, la mort, la sexualité. Ce sont des questions qui sont probablement au moins vieilles comme l'humanité, en tout cas, dès lors que l'on pense.
Même avant. Hein.
Et peut-être même avant. mais qui sont posées de façon sans cesse renouvelée, selon un nouvel angle et avec de nouvelles connaissances.
Oui, il y a quand même des connaissances qui se sont accumulées et qui nous permettent d'entrevoir au moins certaines phases de l'évolution de la vie. Enfin, une chose importante quand même, c'est de se dire que toutes ces transformations qui ont pu permettre d'aller d'une molécule qui est capable d'auto-renouvellement, à des êtres aussi complexes que ceux qui vivent sur la Terre en ce moment et ceux qui ont vécu pendant les temps géologiques, il a fallu beaucoup, beaucoup de temps. Et ce temps a été utilisé par l'évolution biologique, qui a été certainement menée par des quantités d'essais qui ont réussi ou pas. Ceux qui n'ont pas réussi ont été éliminés, ceux qui ont réussi ont donné naissance à d'autres, etc.
Oui, c'est-à-dire que c'est cette recombinaison permanente entre les deux ADN qui provoque au fil des milliards d'années des tests, des tentatives, et on arrive monde vivant
aussi,
que nous connaissons.
Oui, et puis aussi avec un phénomène qui est important à considérer, c'est l'adaptation de tous ces êtres vivants au milieu, parce que le milieu extérieur, c'est-à-dire l'atmosphère terrestre, enfin ce qui se passe au niveau de notre planète, a beaucoup changé au cours du temps. Et qu'il a fallu que les êtres vivants s'adaptent, c'est-à-dire que lorsqu'ils n'avaient pas l'équipement, si j'ose dire, nécessaire pour survivre dans telle et telle condition, ils disparaissent. Ce sont d'autres qui prennent la place.
Oui, parce que votre ouvrage se commence d'ailleurs par un tableau de l'évolution des formes vivantes et qui est scandé par ces mots terribles, extinction massive.
Oui,
c'est
pour
ça. Il y a beaucoup d'essais qui sont peut-être concluants dans les conditions données,
extinction.
Et qui tout d'un coup ne le sont plus.
Ah ben oui. Et là, il y a quelqu'un, un des grands savants biologistes, qui est Charles Darwin. Il a bien mis ça en évidence, c'est-à-dire que l'évolution, elle est guidée beaucoup par la résistance, la capacité des êtres vivants à s'adapter aux conditions extérieures. Seuls ceux qui sont capables de s'adapter survivent, les autres sont éliminés.
Ça donne quand même une énorme modestie, c'est-à-dire que quand on lit ce tableau, on se dit tiens, la vie perdure, mais les formes de vie changent tout.
Oui, c'est ça. Alors, on entend beaucoup dire, il y a la biodiversité diminue, Ben, c'est pas la première fois qu'elle a diminué. Hein. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas ennuyeux de voir que l'activité humaine...
À l'échelle humaine, en tout cas, c'est ennuyeux.
À l'échelle humaine, c'est intervient beaucoup. Mais c'est une des causes qui va modifier, probablement, modeler la vie sur la Terre.
Je poursuis sur cette question d'humilité ou de modestie quand on observe la vie avec un plus de recul et un grand angle, en quelque sorte. On a un sentiment, peut-être, lorsqu'on découvre, par exemple, que finalement, tous les êtres vivants sont finalement nos cousins, nos cousines, vous le dites à un moment, c'est-à-dire oui. même une plante ou autre, les mécanismes
qui
régissent
sont
très
ADN.
Proches. Voilà, on a le même ADN que les plantes.
Oui, il y a des variations, bien entendu, mais c'est le même principe, en tout cas.
Hein. Oui, c'est ça. Donc on est plongé dans le même bouillon de vie et on obéit finalement au même principes vitaux, juste...
Ah, absolument. Voilà. Alors, absolument.
Est-ce que ça ne donne pas un vertige similaire à celui qui était celui d'hommes d'autre période, lorsqu'ils apprennent finalement que la Terre n'est pas au centre de l'univers,
mais que
c'est nous qui gravitons. Parce que sinon, même dans la vie, finalement, est-ce qu'on est au centre?
Peut-être que oui, c'est que ça fait... Les gens qui réfléchissent à la question, il est possible que ça ait un effet très, très choquant pour eux. Mais justement, en venant ici, j'ai écouté dans ma voiture les informations et le fait qu'il y avait une petite émission sur les prix Nobel qui viennent d'être attribués à trois personnes, trois Américains, qui ont étudié les mécanismes du sommeil. Et alors, ils ont étudié les mécanismes du sommeil sur une petite mouche, la drosophile. Alors, la personne qui dirigeait cette émission demandait à un médecin, un spécialiste du sommeil, qui répondait pour donner quelques informations pour que ça devienne plus compréhensible pour le public. Comment se fait-il que la drosophile, elle dorme et que son sommeil obéisse aux mêmes lois que nous? Ben, c'est parce que nous sommes cousins, comme vous disiez tout à l'heure, de la drosophile.
Et pour preuve, je crois que c'est avec la drosophile qu'on a commencé à décrypter, c'est comme ça qu'on dit, l'ADN, non ? Ou découvert, ou enfin cette mouche a un grand rôle dans la découverte de l'ADN.
Pas la découverte de l'ADN, mais dans la découverte du rôle joué par l'ADN dans le développement et dans aussi l'expression des différents caractères spécifiques de l'espèce. Oui, c'est un modèle sur lequel on a beaucoup travaillé, on travaille encore beaucoup,
et c'est
niveau moléculaire.
Du coup, on en vient à cette histoire, la science du vivant, c'est une des dates clés, non ? Cette époque-là, je crois, c'est dans les années 50, c'est pas ça ?
1953, là, ça a été découvert, oui, l'ADN.
Et en quoi c'est une date clé ?
Date clé parce que avant on savait bien qu'il y avait des caractères héréditaires. La génétique a commencé avec Mendel. Et Mendel, c'était dans les années 1860. Mais après, les travaux de Mendel n'ont pas été compris sur le moment. Et la génétique a ressurgi grâce aux travaux de gens qui travaillaient sur les plantes en 1900. Et à partir de là, il y a eu des travaux sur un modèle animal, c'était la drosophile, en effet. Et puis mais on ne savait pas quelle était la molécule qui était responsable. On savait qu'il y avait une reproduction à l'identique de certains caractères, depuis les parents jusqu'au d'une cellule à la cellule fille ou des parents à la descendance. Mais on ne savait pas du tout où était inscrit le programme. Et il fallait trouver une base moléculaire, il fallait trouver une base chimique. Et c'est Watson, Crick et puis d'autres, en particulier, je ne me rappelle plus du nom de la dame là.
Ah ben, peu importe. Oui, je le dis, ça peut.
qui ont démontré que c'était dans cette molécule très particulière, qui est faite de deux brins qui sont enlacés sous forme d'une hélice et qui sont réunis par des bases qui sont complémentaires, point de vue biochimique, et qu'il y a quatre bases différentes. C'est donc une espèce de dictionnaire avec quatre lettres seulement. Et ces quatre lettres, répétées sur la grande longueur que constitue la molécule d'ADN pour des organismes comme les mammifères, par exemple, et d'autres, eh bien, ce sont ces quatre lettres, c'est-à-dire la séquence, leur ordre dans la séquence de ces bases, le long de la molécule, c'est là que se trouve l'information.
Oui, c'est-à-dire répéter à l'infini dans toutes les combinaisons possibles, ça finit par pouvoir programmer la constitution quantité, d'un être extrêmement complexe tel que l'être humain.
Une quantité d'informations énorme, oui.
Alors précisément, comment expliquer, que savons-nous sur ce passage dès la création d'êtres extrêmement complexes, au-delà du test des capacités que vous évoquiez et qu'on connaît depuis
Alors
Darwin.
Comment
ça se passe chimiquement, en quelque sorte?
Ben ça, c'est le problème clé pour l'instant, parce qu'il faut comprendre que après la fécondation, c'est-à-dire lorsque l'ADN du père et de la mère se sont associés, eh bien, on a un certain patrimoine héréditaire qui se trouve dans une cellule qui s'appelle l'œuf. Et cet œuf va se multiplier et former un petit groupe de cellules qui, au départ, sont toutes identiques. Et puis, petit à petit, elles vont commencer à évoluer d'une manière différente les unes des autres. Et en même temps, elles communiquent entre elles. Il y a un système de communication intercellulaire. Et des informations vont donc être échangées. Et à la fois la prolifération cellulaire, le comportement des cellules, va élaborer la forme du corps pour chaque espèce, la forme des organes et la forme des tissus le fonctionnement des tissus qui constituent les organes. Et tout ça, il faudra encore en plus qu'il y ait des phénomènes associatifs et des phénomènes de régulation qui font que toutes ces cellules qui font des choses différentes, les cellules du foie font quelque chose de différent, les cellules du cœur, des muscles, etc. Il faut encore que tout ça soit régulé, c'est-à-dire que tout ça soit ordonné et que tout ça soit contrôlé. Et c'est pour ça qu'on a des hormones, qu'on a du sang, qu'on a des nerfs, etc. C'est compliqué.
Et tout cela de façon unique pour chaque individu, de surcroît. Car il y a peu, comme on l'a vu.
Ça recommence pour chaque individu. Ça recommence à partir de chaque œuf. Alors, les variations individuelles, c'est ça que vous posez comme question. Ouais, variations individuelles, c'est l'expression des différences qui existent dans le patrimoine génétique, c'est-à-dire dans le contrôle. Qui est effectué par l'ADN et qui s'exerce petit à petit au cours du développement. C'est très compliqué.
Et qui permet cette merveilleuse diversité.
C'est ça la biologie du développement. C'était ma spécialité. C'est essayer de comprendre comment tout ça peut se faire. Il faut être modeste parce qu'on comprend un certain nombre de choses. On découvre des mécanismes. Mais c'est un grand domaine.
Alors dans ce développement qui produit une infinie diversité tout en ayant les caractéristiques d'une espèce, parce que finalement, avant on abordait le problème de la vie, je pense, en classifiant les espèces, hein, c'était la méthode à l'ancienne. Aujourd'hui on découvre que ces classifications, c'est peut-être pas complètement absurde, mais que finalement, entre le grain de gris et le mammifère, il y a beaucoup de caractères communs. Très bien. Toujours est-il que cette diversité au sein même de l'être humain, elle est aussi un gage probablement de résilience, non ? Dans un schéma darwinien. Le fait que nous soyons tous plus ou moins différents, que nous recombinions, est-ce qu'en termes d'espèce, c'est pas une garantie de traverser des éventuelles épreuves ?
Oui, je vois ce que vous voulez dire. La diversité donne des capacités d'adaptation aux contraintes extérieures. C'est ça que vous voulez dire ?
Oui, exactement.
Eh bien, vous avez raison, c'est ça. C'est tout à fait vrai. Et ça, c'est une richesse. Alors, les bactéries, pourquoi est-ce qu'elles existent encore ? Parce qu'elles n'ont pas ça. Elles se coupent en deux. C'est-à-dire, et puis, elles fabriquent un ADN identique à chaque fois. elles n'ont pas cette capacité de diversifier que les eucaryotes dont nous sommes possèdent. Mais elles se débrouillent quand même pas mal, puisque c'est elles qui ont commencé la vie cellulaire, et il en existe encore.
Elles sont toujours là, oui.
Non seulement elles sont toujours là, mais elles sont en nombre énorme, et elles sont en une diversité énorme. Ce qu'on découvre, par exemple, dans l'intestin des êtres humains, là, le microbiome, c'est un nombre d'espèces qui n'étaient pas connues et qui sont maintenant révélées comme par l'étude de l'ADN, justement. Alors, elles ont des façons quand même de se diversifier. Parce que si elles ne sont pas diversifiées, vous savez, par exemple, vous avez quelque chose de bien rigide et puis vous avez une force extérieure comme une autre bactérie qui va tuer, qui a trouvé un moyen de détruire les cellules qui contiennent tel ADN. Alors, l'espèce va disparaître très rapidement. Mais s'il y a des diversifications qui sont introduites, il y aura quelques animaux, quelques cellules qui vont survivre. Et l'espèce, elle sera un peu modifiée, mais elle va survivre. Et cette diversification, c'est une protection. Alors, il y a
d'où comment... la grande crainte que nous avons des bactéries mutantes ou qui s'adaptent aux moyens que nous avons de les combattre lorsqu'elles sont néfastes.
Voilà, vous avez tout compris, c'est ça exactement. Alors, comment est-ce que les bactéries font ? Eh bien, elles ont la capacité de faire des échanges d'ADN. Deux bactéries se mènent l'une contre l'autre, il y a un petit trou qui se fait dans la membrane, et puis il y a un petit fragment d'ADN de l'une qui va aller chez l'autre. C'est ce qu'on appelle la conjugaison bactérienne, et ça a été découvert à l'Institut Pasteur dans les années 60 par François Jacob, François Monod, Jacob et Lvov, qui ont eu le prix Nobel pour ça. J'ai bien expliqué ça en long et en large, vous avez vu.
Absolument.
Oui, c'est très important. Oui, alors ça, c'est une façon de... Et puis d'autre part, il y a aussi des fragments d'ADN dans des cultures bactériennes qui sont extracellulaires et qui ont la capacité de rentrer dans la cellule. C'est ce qu'on appelle les plasmides. Et alors, ils peuvent rester dans la cellule bactérienne, mais ils peuvent s'incorporer dans le chromosome bactérien. Mais même si elles ne s'incorporent pas dans le chromosome bactérien, elles confèrent, par exemple, des résistances aux antibiotiques ou la résistance à un certain nombre de facteurs défavorables qui sont extérieurs.
Alors vous nous expliquez aussi que la rançon de la complexité, c'est la mort. C'est-à-dire que autant les...
Ben, écoutez, on est obligé de... C'est optimiste de dire ça, mais c'est un petit peu une observation qu'on fait. Hein. Oui.
C'est-à-dire que lorsqu'un organisme se reproduit à l'identique, en quelque sorte, il est éternel, c'est ça que ça veut dire ? Que
ben,
s'il est
oui,
complexe,
puisqu'il se retrouve
à peu près.
Ben oui, et puis il fabrique... ça veut dire que l'espèce est quand même... Elle continue à vivre, sauf quand elle est détruite par des éléments extérieurs auxquels elle ne peut pas répondre. Mais autrement, l'espèce se perpétue, mais par l'intermédiaire des gamètes qui permettent l'apparition de la génération suivante. Mais autrement, l'individu lui-même, il n'est que porteur de gamètes. C'est ce que Weismann, voilà. le grand biologiste du 19e siècle allemand, il avait dit, mais finalement, vous savez, le corps, les êtres vivants, ils sont formés de deux choses, le soma, c'est-à-dire le corps, et puis ça, c'est destiné à mourir à chaque génération, et puis le germène. Et le germen, c'est que les quelques cellules qui sont mises de côté au cours du développement et qui vont être à l'origine des gamètes.
Qui sont donc transmises.
Alors, par l'intermédiaire du germen, l'espèce survit. Et l'individu se perpétue dans sa descendance.
Donc le dispositif...
Se perpétue sans être identique. Hein.
Oui, mais c'est là où on rejoint la philosophie, quand même. C'est-à-dire que
oui.
la complexité va avec la finitude... l'unicité de chaque être va avec le fait qu'il est appelé à ne pas être éternel. C'est bien ça ?
Tout à fait.
Est-ce que si le dispositif du vivant consiste à avoir une grande diversité d'êtres qui se recomposent sans cesse pour créer sans cesse de nouvelles combinaisons et de la diversité, si il s'agit de transmettre des données caractéristiques qui sont celles de l'espèce pour assurer sa survie, mais en laissant s'éteindre chacun des individus, n'est-ce pas dangereux?
Un grand gaspillage.
Dangereux d'imaginer une perpétuation de l'espèce, comme le font certains, et comme l'espèrent désormais un certain nombre de rêveurs, mais enfin des rêveurs actifs, d'imaginer une humanité qui se perpétue elle-même, chaque individu accédant à l'immortalité. Est-ce que c'est pas un danger, si on dresse ce tableau général?
Écoutez, c'est pas d'aujourd'hui que l'homme pense qu'il pourrait un jour être immortel. C'est un rêve. Alors, est-ce que parce que nous avons fait des grands progrès dans la biologie, parce que nous avons trouvé quel était le support des caractères héréditaires et quelle était finalement la molécule de la vie qu'on avait appelée à ce moment-là, cette découverte, c'était le secret de la vie qui avait été découvert. Est-ce que ça va permettre de rendre réel ce vieux rêve de l'humanité? Je pense que au jour d'aujourd'hui, malgré tous les progrès qui ont été faits, les connaissances ne permettent pas vraiment de considérer qu'on a fait un pas très grand dans cette direction. Je crois que nous n'en savons pas assez. Je ne sais pas si un jour nous en saurons suffisamment pour pouvoir créer des êtres qui ne s'useront jamais. Je suis pas très 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 partisane de cet espoir.
Vous l'appelez quand même espoir?
L'espoir de l'immortalité.
Oui.
Je suis pas sûre que ce soit quelque chose de tellement formidable pour l'humanité.
Oui.
Il faut laisser.
Parce que là, on disait espoir, rêve.
Oui, mais il y a des gens qui.
Cauchemar,
qui...
non?
Ben voilà. Oui, les deux. Il y a les deux aspects. C'est le yin et le yang. Les deux aspects. Il faut laisser la place au. Tel qu'est la vie maintenant, en tout cas, et puis avec la finitude de la capacité du globe terrestre à héberger l'espèce humaine et à la nourrir, etc.
Il y a ça, et puis peut-être même d'avant, si on, parce que c'est ça qui est formidable avec votre ouvrage, c'est quand on comprend les mécanismes, les différents mécanismes de la survie des espèces, c'est que ce qui fait la beauté de l'espèce humaine, c'est précisément sa diversité, c'est-à-dire que contrairement à ces bactéries qui se reproduisent à l'identique, pour survivre et se perpétuer, nous devons aller vers un autre qui est un autre, et donner naissance à un nouvel être qui est différent de ceux qui l'ont engendré.
Mmh.
Tout ça s'articule, c'est pour ça qu'on est dans une époque quand même très paradoxale, parce que on aime l'altérité, mais en même temps on nourrit un rêve qui est celui de la reproduction à l'identique. Du narcissisme poussé jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire comme ce serait
c'est
mieux
complètement contradictoire.
Si je pouvais être moi jusqu'à la fin des temps, non, jusqu'à la fin qui n'a pas de fin d'ailleurs.
Une fin qui n'a pas de fin. Et alors si tout le monde en fait autant, ça devient vraiment crowded, comme on dit en anglais, c'est-à-dire.
Oui, ou alors on cesse de se reproduire puisqu'on était éternel.
Ah ben oui, c'est pas la peine de se reproduire.
Pourquoi s'embêter avec cet autre être différent, braillard, alors que on peut se contempler dans le miroir de l'éternité?
Oui, ça demande quelques réflexions.
Ça serait quand même une mutation complètement incroyable, ce rêve. C'est là qu'on voit qu'on change non seulement de valeur, vous le dites souvent d'ailleurs, qu'en fait il faut réinventer de nouvelles valeurs, et ça c'est un fait, dès lors que les connaissances sur la vie, les mécanismes de la vie progressent, il faut réévaluer nos valeurs. Mais en vous lisant, moi j'ai eu le sentiment qu'il fallait les réévaluer, mais dans le sens de « préservons ». Ce qui fait cette essence de l'humanité, qui est, chimiquement parlant, de produire de la diversité à l'infini.
Oui, de laisser s'épanouir des individus, sachant qu'ils ne sont pas éternels du tout, mais qu'ils sont un passage. Mais les aider à s'épanouir. Parce que le bébé humain, pourquoi est-ce qu'il donne un individu qui rentre immédiatement dans la civilisation telle qu'elle est? c'est parce que nous avons la capacité du passage de toutes nos connaissances aux générations suivantes. Donc c'est un éternel recommencement et en même temps un éternel changement. Alors c'est ça la vie humaine. C'est très beau comme ça. Et ceux qui veulent que ce soit qu'on soit immortel, ben, c'est juste une manifestation de l'angoisse de la mort.
Oui, parce qu'au fond, l'immortalité ou alors le clonage, finalement, il y a comme une pulsion de l'identique quand même.
Ben, il y a une pulsion de jamais mourir. Mais il y a tout le monde.
C'est bien compréhensible.
Tout le monde a ça, mais il faut se raisonner parce que.
Bon, de toute façon, Dieu merci, allais-je dire, nous n'en sommes pas là. En revanche, est-ce qu'on peut imaginer, c'est le processus est en cours, l'allongement de la durée de la vie, c'est un problème totalement différent, hein, pour bien préciser.
Oui.
Nous ne sommes pas pour que les êtres humains meurent dans des souffrances atroces, qu'ils continuent de mourir jeunes ou moins jeunes. L'allongement de la durée de la vie, à un horizon toujours repoussé, en revanche, ça, on peut tout à fait l'imaginer avec ce qu'on a d'ores et déjà découvert.
Oui, oui, oui. Et puis,
c'est une vraie bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose d'optimiste.
Alors, quels sont l'état des découvertes en la matière?
Ah, le vieillissement. Eh bien, oui, le problème, c'est le vieillissement. Hein. Du point de vue purement biologique et moléculaire, enfin, vous avez vu que dans le livre, il est toujours question de retourner aux sources pour savoir comment tel et tel processus s'accomplit. Alors, tout ça, processus vital. Mais pourquoi génétiquement est-il fixé dans nos chromosomes que nous ne pouvons pas dépasser un certain temps de vie, que notre organisme se dégrade? Alors c'est intéressant parce que tout ça s'est inscrit dans l'ADN. Alors il faut chercher quelles sont les molécules qui sont responsables du fait que des phénomènes essentiels pour la vie, la respiration, la fabrication des protéines, les phénomènes endocriniens, vous savez, les hormones, comment tout ça se dégrade au bout d'un certain temps, plus ou moins vite, hein, en fonction de l'individu, mais... Alors c'est ça les études sur l'élisement. C'est en train de prendre un grand essor. On commence à comprendre beaucoup de choses et je pense que dans l'avenir, on comprendra beaucoup mieux encore parce que c'est quelque chose qui fait partie du cycle de la vie. C'est bien d'étudier le développement, mais il faut aussi... Le développement, il va jusqu'à la fin. Donc il faut l'étudier jusqu'au bout. Alors tout ça, ben, c'est ça, je pense que c'est une chose positive qui, comme vous le dites, permettra probablement d'allonger la durée de la vie de chaque individu dans des conditions qui sont confortables.
L'ouvrage s'ouvre presque sur la nécessité de réflexion éthique autour de ces questions. On a commencé à effleurer le sujet en parlant de ce désir... d'immortalité ou encore du clonage. Qu'est-ce qui fait que nous sommes dans une situation radicale? Parce qu'on a vu, ce sont des vieux rêves de l'humanité. Il y a même des tas de mythes antiques qui évoquent tout cela. Qu'est-ce qui fait que la situation est radicalement différente? C'est le fait que désormais nous pouvons non seulement comprendre ces mécanismes, mais agir sur eux. Et comment?
Du point de vue éthique, vous voulez dire?
Oui, ce que je veux dire, cette question se pose parce que désormais, qu'est-ce qui est radicalement nouveau dans notre rapport à ce que l'on comprend de la vie? C'est-à-dire que désormais, on peut agir sur cet ADN, on peut le bricoler, on peut...
Oui, 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 on peut agir.
Et jusqu'à quel point aujourd'hui?
Ben, c'est une... Jusqu'à quel point? Ben écoutez, on peut agir, on pourrait même agir beaucoup plus... Et des découvertes récentes ont montré ont permis de mettre au point un système qui autorise à changer un gène sur une cellule d'une manière assez facile. C'est ce qu'on appelle le système CRISPR-Cas. Et évidemment, les gens qui réfléchissent se disent que c'est très bien ça, mais qu'on pourrait utiliser ça sur les embryons humains et modifier la génétique de l'embryon humain qui lui-même va se reproduire des gamètes, etc. Et par conséquent, modifier le génome humain d'une manière durable et d'une manière importante. Donc ça, c'est une inquiétude parce que c'est dangereux. Alors, dans certains pays comme la France, par exemple, ce type d'expérience est interdit. On n'a pas le droit de toucher au génome humain. Mais il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus, difficiles. Et c'est le cas, par exemple, de l'Angleterre. Et en Amérique aussi, d'ailleurs. Et depuis que le système CRISPR a été découvert, eh bien, il y a eu des expériences faites sur l'embryon humain. Alors, à titre expérimental, les embryons qui ont été manipulés n'ont pas été réintroduits dans l'utérus d'une mère, mais...
On aurait pu.
Mais il s'agissait d'embryons qui avaient une anomalie génétique qui était responsable d'une maladie du sang. Et alors, on sait que ça vient d'un gène, et ce gène a été modifié, remplacé par un gène normal.
Donc là, on est dans la thérapie génique. Mais on peut tout à fait imaginer que la même technique soit mise au point pour autre chose que de la thérapie.
Ben oui. Ben ça, c'est dans, ça, il vaut mieux. Il faut faire attention. Moi, je pense que la science, c'est merveilleux, c'est formidable, c'est même indispensable. L'humanité a tout avantage à connaître ce qu'elle est exactement. Mais je crois qu'elle a aussi intérêt à être extrêmement vigilante sur l'utilisation de la science, des avancées scientifiques. Il faut qu'il y ait des comités d'éthique et que l'application des données qui sont de nature à avoir des dangers sur l'espèce humaine, il faut que tout ça soit très bien contrôlé.
Mais pour l'instant, on avance un peu en ordre dispersé, parce que si je comprends bien, certains pays ont des comités d'éthique, d'autres n'en ont pas. Les comités d'éthique des différents pays n'arrivent pas aux mêmes conclusions. On tâtonne.
Ben oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais on a eu peur de beaucoup de choses, parce qu'il y a eu tout un tas de découvertes importantes qui ont été faites. Le clonage, par exemple. Il y a eu des grandes inquiétudes sur le fait qu'on allait faire du clonage dans des pays où il n'y avait pas de comité d'éthique. En réalité, la nature est quand même assez bien tamponnée, comme on dit en chimie. C'est-à-dire que c'est pas toujours facile d'intervenir. Il y a eu des gens qui ont essayé pour le cloner, puis en fait, ça s'était abandonné. Je pense pas qu'il y ait des gens qui se font cloner. Ils vont dans des pays laxistes pour se faire cloner. Je crois qu'on est passé à d'autres choses.
Oui, le rêve est là quand même.
Le rêve est là. Oui.
Le rêve est là. C'est même un courant qu'on appelle trans ou post-humaniste.
Ouais.
Que vous inspirent ces rêveries. Mais enfin, ce sont des gens qui se renseignent de façon très approfondie quand même sur ce que permet la science. Et ensuite, ils en tirent tout un tas de conclusions.
Ils essayent de gagner de l'argent aussi avec ça. Moi, je pense que l'espèce humaine, en fin de compte, vous savez, est assez raisonnable. Et je ne crois pas que ça aille bien loin. D'abord, premièrement, à cause de ça, il y aura des freins éthiques. Et puis, deuxièmement, parce que c'est très difficile et que la nature aussi a des façons de se protéger. C'est pas si facile que ça de faire toutes ces manipulations à une grande échelle.
La vie se protège elle-même ?
Oui, à cause de sa complexité. Oui, c'est vrai.
Pour conclure, finalement, à l'issue de cette longue carrière, vous êtes penché sur les origines même de la vie, l'embryologie, la biologie du développement. Vous en ressortez avec quel type de sentiment, finalement, lorsque vous observez tout cela ?
Eh bien, parce que j'ai eu une vie extrêmement intéressante. J'ai commencé en étant professeur de lycée, et puis j'ai fait beaucoup d'efforts pour, alors que j'étais professeur, me débrouiller pour arriver à faire une thèse, à rentrer dans le monde de la recherche et j'ai eu la chance de tomber sur un laboratoire formidable avec, dirigé par mon patron Étienne Wolff, qui était aussi membre de l'Académie des sciences, même membre de l'Académie française et de l'Académie de médecine.
Sur lesquels il y a très belles pages.
Merci. Et j'ai eu cette chance-là et puis j'ai trouvé ma voie et j'ai passé une vie vraiment formidable en ce qui concerne le métier que je pratiquais, parce que j'ai aimé ça énormément. Et vous voyez, maintenant je suis en retraite, eh bien je reste, évidemment j'ai continué à travailler, même dans le laboratoire pendant longtemps, après ma retraite, hein. Mais maintenant, ça devient plus difficile, et je continue à faire de la science en écrivant des livres. Moi, ça me fait du bien de faire ça.
Mais écoutez, vous donnez, au final, avec ce dictionnaire amoureux de la vie, vous donnez une recette de belle et bonne vie, ce qui prouve que décidément, la science et la philosophie et le désir de connaître vont certainement de pair.
C'est vrai, oui.
En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et comme nous n'avons pu qu'effleurer le sujet, chacun le sait, le domaine est très très vaste et l'ouvrage l'est aussi, mais très facile à lire puisqu'il s'agit donc d'un dictionnaire amoureux de la vie tant et si bien qu'il se présente sous la forme d'un abécédaire et que donc chacun peut le lire même en désordre s'il le souhaite et butiner comme des petites abeilles au gré de l'humeur et de l'envie du jour. Et voilà, donc je conseille à nos auditeurs de devenir des lecteurs de ce livre après vous avoir écouté. Eux aussi seront, n'en pas douter, des amoureux de la vie après avoir lu votre ouvrage. Merci beaucoup encore.
Merci à vous.